Chapitre 13. Pascal Robillard ne se sentait vraiment pas bien. Lorsque Lucie et Franck revinrent avec un sandwich acheté à la boulangerie du coin, il s'était assis contre un arbre à proximité de l'étang, la tête entre les mains. Il leva vers eux des yeux brillants, injectés de sang, et secoua la tête quand Lucie lui tendit à manger. « Pas faim. J'ai froid. Je tremble. Je crois que c'est la grippe. Faudrait qu'on me raccompagne chez moi. On n'a plus qu'une voiture. » Charcot se tourna vers Lucie.
« Tu la ramènes. Je me débrouillerai pour rentrer avec l'identité judiciaire. »
Lucie jeta un œil aux quatre plongeurs en combinaison qui venaient de s'enfoncer dans l'eau. Elle aurait bien aimé savoir ce qu'ils allaient remonter de ces fonds vaseux.
« Très bien. Tiens-moi au courant pour les découvertes. »
« Et toi, fais attention de ne pas choper sa maladie. Ça n'a pas l'air joli joli. Et je ne voudrais pas que les jumeaux attrapent cette saleté. »
Il s'adressa à Robillard.
« Bon courage. Tu montes à l'arrière le plus loin possible de Lucie et garde la bouche enfoncée dans ton écharpe, s'il te plaît. »
Robillard arracha son quintal du sol avec toutes les difficultés du monde. Ça faisait drôle de le voir ainsi amoindri, lui qui tenait toujours une forme olympique. Il disparut dans les bois, accompagné de la lieutenant. Désormais seul, Franck Charcot s'appuya contre un tronc, pas loin des traces de sang, croquant avec vigueur dans son thon mayonnaise. D'abord Levallois, qui ne se remettait pas de son week-end, Robillard à présent, et cette affaire de meurtre. Les prochains jours risquaient d'être difficiles avec des effectifs réduits. Pas demain la veille qu'il pourrait passer plus de temps avec ses fils. Quand se déciderait-il enfin à franchir le pas et à quitter son job? Quelque chose le retenait dans ce putain de métier. Quelque chose de sombre, d'incompréhensible, une part de ténèbres insondables, et ça faisait plus de 25 ans que ça durait. Un quart de siècle à traîner dans l'obscurité, bon Dieu! Charcot renifla. C'était vrai que ça sentait un peu la menthe dans le coin. Pourquoi l'assassin se promenait-il avec des feuilles de menthe coupées sur lui? C'était quoi encore ce délire? Des bulles d'oxygène crevaient à la surface de l'étang. Les plongeurs se focalisaient d'abord sur la périphérie. Il ne fallut pas plus de 5 minutes avant qu'ils retrouvent, tout proche de la berge où avait eu lieu la lutte, un casque d'un blanc sale muni d'une lampe frontale.
« Il était par plus de 2 mètres de fond !» fit l'homme grenouille avant de replonger.
Charcot se frotta les mains avec une serviette en papier, but une gorgée d'eau et observa attentivement l'objet. Ça ressemblait à un casque de chantier, avec une source lumineuse circulaire harnachée dessus par des sangles. Aucune trace d'algues ou de vase. Son séjour dans l'eau avait donc été court. Appartenait-il à l'assassin? L'avait-il perdu dans la lutte et s'était-il trouvé incapable de le récupérer? Charcot demanda à l'identité judiciaire de l'embarquer pour analyse. Il y avait peut-être des cheveux, des squames de peau, quelque chose. Une heure plus tard, un autre plongeur sortit de l'eau, ôta ses palmes, éteignit sa lampe torche et se dirigea vers Charcot, un type balèze avec la trace du masque incrusté sur le visage.
Les hommes ont trouvé la lampe cubique un peu plus loin, puis quelque chose là-bas de l'autre côté. 4 parpaings lestés retenaient un gros sac en toile. Ils sont en train de couper les cordes pour remonter le sac.
Très bien. Vous n'oublierez rien. Ni les parpaings. « Ni les cordages !»
Le lieutenant Charcot observa l'endroit en question. C'était à l'opposé du lieu où ils avaient trouvé la lampe, dans un endroit difficile d'accès à cause de la végétation. La berge y était très haute et abrupte.
« C'est profond ?»«
Assez, oui. 2,50 mètres environ. De façon générale, cet étang est un vrai trou. » Charcot imagina le balai de l'assassin. Rapporter les parpaings, les cordages, en pleine nuit, lester son colis pour le balancer à l'eau. Cela avait dû prendre du temps, demander des efforts. Il voulait s'assurer qu'on ne retrouve pas son sac. Il connaissait probablement le coin, savait que l'étang était profond, un type des environs. Les tubas et les bouteilles d'oxygène se dessinèrent sur l'onde. Les 3 hommes remontèrent avec leur colis et le posèrent devant la berge. Charcot s'approcha.
« Combien il pèse ?»
« Je dirais 60 kilos. Ils repartirent dans l'eau. Charcot considéra le fruit de leur découverte. Il s'agissait d'un de ces gros sacs très solides, de couleur foncée, utilisés pour transporter le riz ou ce genre de denrées. Pas de marque, pas de signe distinctif, rien n'attiré de ce côté-là. L'extrémité avait été fermée avec de grosses agrafes qu'on utilise dans l'industrie. Le lieutenant appela les techniciens de l'identité judiciaire.
« Ouvrez-le, s'il vous plaît. »
Les hommes déployèrent une grande bâche bleue, posèrent le sac dessus, prirent une pince fine dans leur matériel et firent sauter les agrafes. Puis ils retournèrent le sac avec précaution. Des ossements de toute taille se déversèrent sur la toile. Des petits morceaux de chair ou ligaments qui semblaient rongés s'agrippaient à certains d'entre eux. Quatre crânes garnis de chair percutèrent le sol dans un bruit sourd. Les hommes se regardèrent. Charcot fixa ses têtes avec attention. Les visages étaient vaguement perceptibles, les yeux semblaient avoir fondu. Restaient encore quelques cheveux accrochés par touffes. Le lieutenant se redressa, frottant ses mains l'une contre l'autre.
« Bon, on embarque tout ça !»
Quatre nouveaux corps sur les bras. Paul Chesnay, le légiste, allait être fou de joie.